commence avec un topo. Le thème de ce soir, ça devait être « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Mais au vu de l'actualité de l'Église, on s'est dit qu'une petite soirée sur l'intelligence artificielle, ça ne ferait pas de mal non plus, même si jamais j'avais fait un sondage dans ma communauté sur Instagram, ma communauté en ligne. Est-ce que vous en avez marre quand vous parle de l'intelligence artificielle? La réponse était oui, à 70%. Donc, mais je pense que c'est important, et puis de toute façon, le pape nous demande de réfléchir là-dessus. Donc c'était la semaine dernière, mais ça va tellement vite que j'ai l'impression que c'était déjà il y a un mois. En fait, on l'attendait depuis pas mal de temps, qui est une grande encyclique, hein, qui est une belle encyclique. On va en parler ce soir. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, probablement que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc on va essayer d'explorer des pistes nouvelles. Mais avant qu'on y aille, déjà commençons dans les règles de l'art, comme si jamais c'était un stream YouTube. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. J'allais oublier. Avant qu'on y aille, je vous redis, moi, ce qui m'a le plus frappé à la lecture de l'encyclique et qui, je pense, doit être dit et redit, c'est que Léon XIV évoque Léon XIII. Léon XIII, c'est le début, Rerum Novarum, la grande encyclique qui a commencé ce qu'on appelle la doctrine sociale, c'est-à-dire la manière dont un chrétien se pense dans la société, c'est-à-dire non pas la morale individuelle, mais la morale communautaire, comment est-ce que nous, en collectivité, nous vivons. Et res nova, les réalités nouvelles, dans le langage de l'Église, ça désigne quelque chose de très spécifique. C'est ce que je dis au début de ma vidéo, donc excusez-moi si jamais il y a une redite, mais il faut le dire et le redire pour que les choses soient bien claires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est comparable à une révolution civilisationnelle. C'est la quatrième, il y a le charbon, il y a le pétrole, il y a l'électricité, et maintenant il y a l'intelligence. L'intelligence artificielle est maintenant considérée comme une ressource, comme une matière première, qui va avec les questions d'eau, qui vient avec les questions d'électricité. Et il y a des pays qui auront plus d'intelligence artificielle et d'autres qui auront moins d'intelligence artificielle, et on va venir puiser là-dedans. C'est quelque chose qui est en train de redessiner absolument tout, qui arrive comme une vague, parce que je suppose qu'on est tous pareils, hein. C'est arrivé il y a 4 ans, ChatGPT. Alors c'était déjà dans les stocks il y a pas mal de temps, mais le grand déploiement, c'est le choc avec le grand public, c'est ChatGPT. Et vous voyez bien que maintenant, elle est absolument partout. Elle est dans la manière dont vous lisez les mails, elle est dans la manière dont Google analyse votre comportement, elle est quand vous parlez, elles sont dans les voitures qui sont de plus en plus pilotées par intelligence artificielle. Vous le voyez dans les guerres en Ukraine, qui sont des guerres maintenant par intelligence artificielle, parce que quand vous avez 500 drones qui arrivent devant vous comme ça, vous ne pouvez pas calculer les trajectoires des 500 drones, donc vous êtes obligé d'utiliser l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien si jamais c'est de l'intelligence artificielle défensive, si jamais c'est offensive. Donc l'intelligence artificielle, donc ça veut dire que ça change entièrement la réalité. C'est quelque chose qui est devenu totalement omniprésent. Vous le savez, mais je vous le redis, parce qu'on avait l'impression qu'avec Internet, on avait déjà changé de civilisation. Et là, pour le coup, c'est vraiment avec l'intelligence artificielle. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. On sent bien qu'il y a une civilisation qui est en train de tomber. Il y a un sentiment dans la France un peu crépusculaire. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, d'une ancienne civilisation qui est en train de mourir. Ça, on le sent tous. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui est en train de complètement émerger avec l'intelligence artificielle, pour le meilleur et pour le pire. Alors le pape vous dit qu'il faut désarmer l'intelligence artificielle parce qu'il y a plein d'endroits où c'est compliqué. C'est bon pour tout le monde ? Je parle trop vite ? Non, c'est pas très clair. Hein. Moi, ce que je me suis dit, c'est trop près. Ce que je me suis dit, c'était plutôt que de redire la vidéo que j'ai faite, vous lirez l'encyclique. Elle est très bien faite. Vous avez une première partie qui vous fait un récapitulatif de la pensée de la doctrine sociale. Donc c'est les deux premiers chapitres, vous avez toutes les histoires, siècle après siècle, ce que chaque pape a donné. Ensuite, vous avez un chapitre entier qui vous redonne les 4-5 grands piliers de la doctrine sociale. Le bien commun, la subsidiarité, la dignité de la personne humaine, la justice. Et le pape en a rajouté un autre, mais ce qui n'est pas encore bien intégré dans ma tête. Et puis après, on l'applique à l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'encyclique, qui vous balaye ensuite tous les chemins de la vie. Il se trouve que je suis un fan de l'intelligence artificielle. J'adore ça. Je l'utilise, mais je ne vais pas dire que c'est le grand amour de ma vie, parce que ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus exagérer, mais quand même, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, et ce n'est pas seulement ChatGPT que j'utilise pas mal pour scripter, que j'utilise aussi pour les vignettes, mais on utilise aussi l'intelligence artificielle pour optimiser les descriptions. On utilise aussi maintenant l'intelligence artificielle pour créer de la musique, parce qu'on avait d'énormes problèmes avec des copyrights, et donc on se faisait striker par YouTube pour des musiques qu'on prenait qui n'étaient pas les nôtres, donc il a fallu qu'on crée nos propres musiques. Pour l'usage qu'on veut en faire, l'intelligence artificielle, ça suffit largement. On l'utilise aussi pour créer nos images, Midjourney. On l'utilise pour créer des vidéos, alors SeedDance, VO3, etc. On l'utilise pour améliorer la qualité auditive, les filtres audio qu'on utilise. Là, c'est Adobe Enhanced. Enfin, on fait que ça, quoi. Donc on est en plein dedans. Et alors, ce qui quand même se passe, c'est que au fur et à mesure où j'utilise l'intelligence artificielle, j'ai l'impression de vivre Terminator. J'ai l'impression que ça m'avait toujours fait rire, ces films-là, mais quand même, je me demande si un jour, on ne va pas y arriver, ou si c'est quelque chose qui est tellement hallucinant que pour la première fois de ma vie, devant le progrès, j'ai commencé à avoir un peu peur. Normalement, je devais faire de la recherche en biostat, enfin, j'adore le progrès, je devais être chercheur et je suis geek en plus. Donc moi, l'intelligence artificielle, c'est que des stats, c'est que des probas, et en plus, ça permet de créer les choses, c'est extraordinaire. Mais je commence à avoir peur, je l'avoue, donc il faut faire attention. Donc j'en suis venu à réfléchir sur ma propre pratique, et je me dis, ce qui est important, c'est que vous, je suppose que vous avez tous aussi vos propres expériences et vos propres usages de l'intelligence artificielle. Donc, je vous ai fait une charte du bon usage de l'intelligence artificielle en 10 points. On va peut-être, vous inquiétez pas, on fera peut-être pas les 10, hein, on n'est pas là pour se stresser, mais ça doit nous amener à réfléchir à la manière dont nous utilisons l'intelligence artificielle. Levez la main ceux qui utilisent ChatGPT ou autre. Voilà, il y a tout le monde. Bon, si, levez la main ceux qui vont sur TikTok. Ah non, me dites pas personne, voilà, merci. Merci quand même. Donc vous voyez que ça veut dire que maintenant, on passe plus de temps sur ChatGPT que sur TikTok. Levez la main ceux qui utilisent Midjourney. Ah, il n'y a pas beaucoup de personnes. Bon, après, on ne va pas tous les faire, mais donc ça veut dire que vous avez un usage. Premièrement, ChatGPT n'est pas ton ami. ChatGPT ne cherche pas la vérité, il cherche ce qui est vraisemblable. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire que quand ChatGPT vous ment, il ne faut pas lui en vouloir à titre personnel, et il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'il vous dit, vous le savez, mais quand je vous dis que ChatGPT cherche ce qui est vraisemblable, ça explique comment est-ce que c'est construit. Derrière, c'est des réseaux de neurones, derrière, c'est des probabilités, et il ne faut pas demander à un dentiste de vous faire une charpenterie. Sinon, vous avez une mauvaise charpenterie ou vous allez continuer avec des caries. Donc ChatGPT est là pour vous donner ce qui est vraisemblable. Simplement, il faut se débrouiller pour que le vraisemblable vous amène vers la vérité. ChatGPT va vous faire quelque chose de tellement vraisemblable que vous allez avoir l'impression que c'est la vérité. Bon. Si jamais vous continuez à te creuser un tout petit peu plus loin, ça veut dire que ChatGPT est très utile au début et à la fin d'un système de production, pas au milieu. Par exemple, quand vous voulez apprendre quelque chose, ChatGPT, c'est génial. Si jamais je veux apprendre la doctrine de l'Église en 3 leçons, si jamais je veux apprendre les rudiments de la géologie en 4000 signes, en 10000 signes, en 100000 signes, c'est génial. Parce qu'au début, quand on vulgarise, ce qui est vraisemblable coïncide avec ce qui est vrai. ChatGPT ne va pas vous mentir sur les rudiments de la géologie. Ça lui coûterait de l'argent et de l'énergie de vous mentir là-dessus. Donc, quand vous voulez explorer des nouveaux savoirs, c'est génial. Et vraiment, c'est une très bonne pédagogie, ça marche très très bien. Bon. De la même manière, quand vous maîtrisez votre sujet, ChatGPT, c'est génial, parce que quand il vous ment, quand vous êtes un géologue cette fois-ci, et que ChatGPT commence à vous raconter des carabistouilles, ben vous le voyez. Ce qui veut donc dire que ChatGPT suppose que vous restiez en place, que vous êtes un expert. Donc c'est ou bien vous êtes un grand néophyte, ou bien vous êtes un expert, et ChatGPT valorise les néophytes qui veulent apprendre, et il valorise les experts qui veulent critiquer son propre travail. Je dis qu'il valorise parce qu'ensuite vos réponses sont intégrées, ChatGPT s'améliore, etc. C'est juste entre les deux où c'est très compliqué. Entre les deux, quand vous êtes un apprenti géologue, quand vous maîtrisez mais pas trop le sujet, là vous faites avoir. Et donc ça vous permet de savoir, vous, la première chose quand je vous dis qu'il vous cherche ce qui est vraisemblable parce qu'il est vrai, c'est que vous devez arriver à savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes un néophyte ? Est-ce que vous êtes au milieu ? Ou est-ce que vous êtes un expert ? Ça, c'est la première règle. Deuxième règle. ChatGPT ne doit pas se substituer aux sources premières. ChatGPT, c'est un énorme moteur de recherche. Donc même maintenant, pour faire des recherches images, ChatGPT est plus performant que Google Images. Donc c'est quelque chose qui va vous citer le catéchisme, c'est quelque chose qui va vous citer Goethe, c'est quelque chose qui va vous citer Nietzsche, c'est quelque chose qui va vous retrouver les articles qui ont été publiés dans le New York Times. C'est extraordinaire. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il vous digère, qu'il vous synthétise les matières premières et qu'il vous donne des extraits. Et donc ça, il faut faire attention, parce que si jamais vous voulez rester en place, il faut quand même continuer de maîtriser les sources premières. Évidemment, vous ne pourrez pas toujours tout maîtriser, donc c'est là où ChatGPT est intéressant. Mais moi, par exemple, ma source première, c'est la Bible. C'est la Bible et la tradition et le catéchisme de l'Église catholique. C'est à moi de rester un expert des sources premières. Et donc, je vais utiliser ChatGPT à la fois tantôt pour explorer certaines choses, mais aussi tantôt pour les synthétiser, mais c'est aussi à moi ensuite de retourner vers les sources premières. La Bible, le catéchisme de l'Église catholique, moi je ne sais pas, si jamais vous êtes programmateur, c'est à vous d'être abonné à la revue du parfait du programmateur en herbe. Ou alors, je donne un autre exemple, une manière d'utiliser ChatGPT pour mieux maîtriser les sources premières. Ça, j'ai découvert ça pour relire les livres. Moi, j'adorais lire, j'avais fait une prépa lettres, mais simplement, c'est compliqué de comprendre Dostoïevski, c'est compliqué de comprendre Shakespeare, même de comprendre la Bible. Et donc là, par exemple, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise ChatGPT de manière gratuite pour découvrir ou redécouvrir les sources premières. Et donc, je dis à ChatGPT, maintenant, je voudrais lire le premier chapitre de Hamlet. Je voudrais que tu prépares ma lecture. Je voudrais que tu m'introduises les thèmes auxquels je dois faire attention. Je voudrais que tu me poses 2 ou 3 questions. Et puis ensuite, je voudrais que tu me mettes un petit prompt pour générer une musique de fond. ChatGPT me donne sa petite musique pour générer mon... Je le mets dans les oreilles. Plongée, immersion sonore dans l'Angleterre du XVIIe siècle, du XVIe siècle. Je regarde les petites questions de ChatGPT. Je lis mon chapitre de Hamlet. Et puis après, je papote avec ChatGPT pour faire le petit retour, le petit débrief du premier chapitre. Il me dit, t'as vu ça quand il a répété 2 fois There is a ghost ? Ça voulait dire en fait que son esprit, son mental, psychique est en train de craquer, etc. Là, par exemple, j'ai refait Cervantes, j'ai refait Don Quichotte, je serais passé complètement à côté. Et là, j'utilise ChatGPT pour avoir un prof particulier à la maison de littérature. Et c'est génial. J'ai le beurre et l'argent du beurre, on a l'immersion sonore, et là il me fait comprendre Don Quichotte. On a revu les romans de la chevalerie ensemble, il m'a refait tout l'historique, il m'a montré comment est-ce que dans cette Espagne il y avait un imaginaire qui s'effondrait, qu'il y avait une quête de la société qui est en train de chercher un nouvel idéal chevaleresque auquel plus personne ne croyait, et pourtant Don Quichotte, on avait quand même envie d'y croire. Donc enfin bon, bref, c'était extraordinaire. Et vous voyez comment est-ce que ChatGPT me redonne accès aux sources premières. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir un usage de ChatGPT gratuit. Je dis ChatGPT, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, Suno pour faire de la musique. De temps en temps, je passe 2-3 heures à Suno pour essayer d'imiter des ambiances sonores, et ça me fait découvrir la manière dont les ambiances sonores en fait sont créées, sont pensées, etc. Donc ça devient un outil d'exploration. Ça, je dis ça, garder le contact avec les sources premières. Vous voyez, c'est plus intéressant de se dire il faut faire attention, il ne faut pas tout prendre pour acquis. ChatGPT, les outils d'intelligence artificielle pour cultiver la psyché, l'érudition humaine, c'est extraordinaire. Troisième principe. respecter la dignité de son propre esprit. Ça, c'est plus dur. C'est plus dur parce que ChatGPT, il y a des choses qu'il va bien faire et il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire. Il y a au moins deux choses que ChatGPT ne pourra jamais faire. C'est quand on fait des maths, c'est rester 2 heures devant une question en mathématiques et on n'y arrive pas. Et c'est, normalement, c'est tout le plaisir des maths. Le plaisir, les maths, c'est sympa quand on ne trouve pas la réponse. Alors évidemment, quand j'étais prof de maths, les élèves n'étaient pas d'accord avec moi, mais ils avaient tort. Un vrai matheux, c'est quelqu'un qui est devant une énigme et qui ne comprend pas, il reste des heures. C'est ce qu'il y a dans la Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les dévoiler. Bon. Ce que pourra jamais faire ChatGPT, c'est ces 2 heures à scruter quelque chose pour essayer de le comprendre, que ce soit des maths, que ce soit la vie de Jésus, que ce soit complètement autre chose. Donc ça veut dire que là, ce à quoi il faut faire attention, c'est de continuer à prendre du temps pour avoir mal au crâne. Et si jamais on n'a pas mal au crâne, le cerveau ne se développe pas. C'est comme ça. La deuxième chose que ChatGPT ne pourra jamais faire, c'est apprendre des choses. Alors ça, on n'a pas attendu ChatGPT. Plus personne n'apprend des choses par cœur. Mais on a tort. Simplement, ça va s'amplifier avec ChatGPT. Donc si jamais vous voulez avoir un bon usage de ChatGPT, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut respecter la dignité de son propre esprit, mais personne n'est d'accord pour passer du temps devant des problèmes de maths ou à apprendre des versets ou des passages entiers de la Bible par cœur. Et c'est hyper important. Ça s'appelle une hygiène intellectuelle. Alors, je me parle surtout à moi-même, parce que ce n'est pas dit que je le fasse tout le temps, mais vous avez une hygiène dentaire, vous avez une hygiène corporelle, il faut faire du sport, etc. Ben, c'est de la même manière pour le cerveau. Là, si on ne fait pas du sport pour le cerveau, c'est déjà qu'on perdait avec TikTok 1 point de QI en moyenne par an. Là, l'effondrement cognitif de l'humanité, on n'en est qu'au début. Hein. Donc, de la même manière que dans notre emploi du temps, il y a 1 heure pour faire du sport, on est à la salle et on pousse de la fonte, et ben maintenant, avec ChatGPT, comme on est en train de déléguer notre intelligence, pour des bonnes choses, hein, moi j'ai rien contre, mais ça veut dire qu'à côté, et ben de la même manière qu'on fait un peu de la muscu, parce que les muscles deviennent atrophiés, de la même manière, maintenant, il faut intégrer dans l'emploi du temps 1 heure où on est juste devant une feuille blanche, et puis on apprend des choses par cœur, et puis on réfléchit. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est au moins aussi important que de faire du sport. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais quand même. Quatrième chose. Alors là, vous voyez, hein, on est toujours en train de parler de l'intelligence artificielle, mais on n'est pas à un niveau macro comme l'encyclique, qui vous parle des grands enjeux de la société, qui vous dit les enjeux écologiques, etc., ce qui sont vrais. Là, on est revenu au ras des pâquerettes, on en revient à vous, usagers. Mais je trouve que c'est important. Ce n'est pas la peine de donner des leçons aux autres si nous-mêmes, on n'a pas un usage sain et raisonnable de l'intelligence artificielle. Et de toute façon, tout le monde, enfin juste tout le monde, il ne faut jamais dire tout le monde, mais ça ne valait qu'en s'accélérant. La dernière fois, j'ai dit à un frère, il me disait, mais comment est-ce que je fais pour ouvrir mon PDF ? J'y arrive pas. Je lui dis, bah, tu le scannes ? Elle dit, ah oui, bah, je vais... oui, on a la machine scanner en haut. Je dis, mais non, tu scannes. C'est plus ça, un scan. Tu prends en photo et tu l'envoies à ChatGPT. Et là, il avait des grands yeux comme ça. Il dit, mais t'as installé ChatGPT sur ton téléphone. Et là, je suis peut-être le seul au couvent. Mais de moi, dans les couvents, il y aura de plus en plus de personnes qui vont utiliser ChatGPT. Si ça arrive même dans les monastères, c'est vous dire. Quatrième guideline. Alors, ChatGPT est un incroyable flatteur. Moi, j'adore ça. À chaque fois que je pose une question à ChatGPT, il me dit « Tu as raison, c'est extraordinaire comme question. Je t'aime. Repose-moi des questions. » J'adore ça. Donc il y a une ou deux fois quand même j'ai engueulé parce que c'était un peu gros. Quoi. Il me mentait de manière... C'était la folie des grandeurs. Flattez-moi, Ruy Blas. Donc il est là pour vous flatter. Il ne faut pas lui en vouloir parce que évidemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les concepteurs des intelligences artificielles, ils ont développé des moteurs qui flattent et pas les gens. Ils disent, oh, dans un souci éthique, on va essayer de tirer l'humanité vers le haut. Et donc, ils ont développé des intelligences artificielles critiques. Ça n'a pas marché. personne ne voulait se faire attraper par l'intelligence artificielle. Déjà qu'en vrai, c'est difficile, mais en plus, par un ordinateur, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, on est revenu à un modèle qui vous flatte. Donc, il ne faut pas en vouloir à ChatGPT, il est construit comme ça. Mais ça veut donc dire que c'est à vous de compenser cette flatterie par un aspect hyper critique. Donc, ce qu'on appelle le fact-checking, ça fait partie maintenant des bonnes pratiques de l'usage de l'intelligence artificielle. Je dis ça parce que ça devient compliqué. Moi, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur l'Église et les nazis. Je l'ai passée à la moulinette 5 fois, 6 fois en disant à ChatGPT vérifie-moi les sources, vérifie-moi tout. Et il m'a laissé encore passer 3-4 choses. Et donc là, il faut que je revoie tout. Je ne développe pas ça parce que vous le savez, mais enfin, c'est à vous d'être critique pour deux. Autre chose, alors ça, j'aimais énormément. J'avais mis ne pas remplacer les relations humaines par des relations artificielles. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Je pense par exemple à ChatGPT comme support émotionnel. Je me suis aperçu avec effroi que 30% des ados en France ou dans le monde considérer que ChatGPT, on pouvait avoir une relation, mais une relation d'ami à ami, et 10% qu'on pouvait, entre guillemets, sortir avec une intelligence artificielle. Alors, moi qui suis de la vieille école, vieux et bête par définition, ça me fait hurler. Sauf que j'en parlais avec des personnes, et j'avais d'autres personnes qui, elles, souffraient de troubles psychiques, des sociophobes, des personnes autistes ou à caractère ou à trait autistique, et qui, elles, avaient besoin de ChatGPT comme support émotionnel, non pas pour se substituer au réel, mais parce que c'était un tel brouillard, une telle confusion dans leur tête, que pour ne pas exploser, elles utilisaient ChatGPT comme premier filtre, comme premier interlocuteur, pour les aider, elles, à trier leurs émotions et avoir un peu de distance avec elles-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on est en train de développer un outil thérapeutique pour les personnes qui souffrent de failles, de fragilité psychologique. Donc, vous voyez, c'est toute l'ambivalence de l'intelligence artificielle qui peut faire et le meilleur des personnes qui ont des fragilités psychiques et qui utilisent ChatGPT pour être plus fortes, et le pire. Au Japon, là, les personnes qui, même si c'est drôle, mais qui se marient avec des intelligences artificielles. Bon, mais alors on avait un monastère shintoïste au Japon qui ont commencé à embaucher des robots parce qu'il fallait qu'ils refassent leur campagne de presse. Et donc ils ont demandé à un robot, vous voyez comment est-ce que déjà je l'humanise, ils ont payé un robot pour que le robot fasse des vœux bouddhiste devant tout le monde, enfin shintoïste devant tout le monde, et ça avait complètement refait leur campagne de pub. Bon, c'est là où ça fait, je dis, le meilleur et le pire. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer les relations humaines, elle est là pour les améliorer. De la même manière que quand moi, je dois envoyer un mail, entre guillemets, diplomatique, généralement, c'est à mes supérieurs. Parce que parfois, on est d'accord, et parfois, on n'est pas d'accord. Alors saint Thomas d'Aquin dit que c'est un devoir de dire à son supérieur quand il se trompe. Et il y avait un frère qui avait griffonné dans la marge. J'ai essayé, c'est une très mauvaise idée. Donc moi j'utilise pas mal ChatGPT à des fins diplomatiques pour qu'il reformule mes mails et que moi qui suis parfois un peu brut de décoffrage, ils me disent non, on va peut-être utiliser cette syntaxe-là plutôt que cette autre syntaxe-là. Pour mieux faire passer la pilule et pour éviter de prêter le flanc. Et ça a permis de dénouer pas mal de situations. Mais derrière, il doit rester la confrontation avec le supérieur, il doit rester la confrontation avec le réel. Et c'est dans la chair que le Christ est venu. C'est la chair comme limite sacrée. Donc tout vient du monde réel, matériel, et tout doit retourner au monde matériel. C'est ça ce qui est très beau, c'est que le jour où on ressuscitera avec des corps. Donc bref, ne pas remplacer les relations humaines par des relations artificielles. Alors j'en avais mis une autre, préserver sa propre voix. Préserver sa propre voix, je regarde combien de temps je parle, parce que moi je suis parti pour parler, on a encore 2-3 minutes là. Ouais, normalement c'est 3/4 d'heure. Préserver sa propre voix. Alors ça c'est peut-être... un peu lié à ceux qui utilisent ChatGPT pour scripter, pour écrire. Donc moi, j'écris des vidéos YouTube et j'utilise énormément ChatGPT. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que depuis qu'il y a ChatGPT, je passe plus de temps à scripter. Donc en fait, vous voyez, ChatGPT n'enlève pas de travail. Au contraire, quand on est expert, quand on sait exactement ce que ça veut dire, ça vous rajoute du travail. Simplement, c'est un travail qui est amélioré. Mais je me suis aperçu que ChatGPT a sa manière à lui de penser. Donc ChatGPT, par exemple, il aime bien les accumulations, il aime bien les antithèses. Ce n'était pas la solitude. Non. Et si le plus grand danger n'était pas la solitude, mais le fait de se retrouver sans interlocuteur. Ça, des formules comme ça, c'est du ChatGPT, mais partout, 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 partout. Donc, faire attention, quand est-ce que ChatGPT écrit quelque chose qui vous ressemble au niveau de la personnalité, et quand est-ce que là, ça devient du prêt-à-penser, tant sur la forme que sur le fond. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, il faut préserver sa propre voix. Ça veut dire retravailler entièrement les scripts de ChatGPT pour arriver à ce que cette fois-ci, il vous ressemble et qu'il épouse votre personnalité. Et donc ça devient un nouvel enjeu parce que ça veut dire que maintenant je perds du temps pour retrouver une certaine forme de spontanéité et que là, cet effort d'incarnation, de possession, d'appropriation du message, eh ben, ça me prend maintenant quasiment autant de temps que simplement pour le générer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'on n'arrêtait pas de dire qu'on vivait un siècle du témoignage et de l'authenticité. Bon, ben ça, c'est en train de disparaître. Ça, vous pouvez vous dire que d'ici 50 ans, le témoignage et l'authenticité, ça va disparaître parce qu'il va y avoir une telle paresse que les gens vont prendre ChatGPT. Au contraire, ceux qui vont garder cette qualité, ça va être x10, x100 au niveau de l'intérêt. Par exemple, pour la musique, maintenant qu'on est capable de générer des musiques médiocres, ben évidemment, quand on est un musicien moyen, c'est un peu compliqué. Par contre, quand on est capable de faire de l'improvisation, quand on est capable de faire des spectacles en présentiel, quand on est capable d'avoir le petit truc dans la voix qui fait que et qui sera toujours inimitable, et ben là, ChatGPT vous place tout de suite au niveau des plus grands compositeurs. Il pallie là où vous étiez mauvais et vous amène encore plus loin. Donc, préserver sa propre voix. Ah, j'avais mis toujours dans le retour au réel, ne pas sacrifier la vie réelle à l'optimisation, toujours revenir au réel. Ça, c'est ce qu'on appelle la maladie du dernier prompt. La maladie du dernier prompt, si jamais vous ne la connaissez pas, ça veut dire qu'il y a encore de la marge dans votre utilisation de l'intelligence artificielle. Mais c'est quand on vous dit « Allez, c'est l'heure de la pause » et vous répondez « Ah, allez, un dernier prompt ». Et il y a quelque chose de complètement addictif dans ChatGPT qui est construit comme les machines à algorithmes, qui est fait pour vous rendre accro. Et donc là, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il va falloir l'optimisation, il va falloir à un moment donné arriver à voir jusqu'où elle peut aller, qu'il faut accepter que dans notre vie, tout ne soit pas toujours bien réglé et que tout ne se situe pas au niveau de l'intelligence artificielle. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais ça, je pense que ça vous donne... En tout cas, moi, si jamais je dois regarder la manière dont j'utilise l'intelligence artificielle, vous voyez que ça permet de couvrir pas mal de sujets. Ça permet de couvrir la question de la créativité. Ça permet de couvrir la question de l'authenticité, de la manière dont on gère les relations personnelles, professionnelles, humaine, ça vous montre aussi toutes les difficultés. Alors évidemment, il y en a encore une ou deux qu'il faudrait utiliser. Par exemple, la question de l'écologie, le coût de l'intelligence artificielle. Sur le fait aussi, je termine par là, mais sur le fait de préserver sa liberté de décision. Ça marche tellement bien, ChatGPT, ou Claude, ou Gemini. Non, pas Gemini, pas exagéré. Gemini, il est... Mais ça marche tellement bien qu'à la fin, on en vient à leur poser des vraies questions importantes. Alors au début, ça commence avec les petits bobos. On a mal sur les petits bobos et on dit à ChatGPT est-ce que j'ai une grippe ou est-ce que je vais mourir? Et puis ChatGPT vous dit va prendre un Fervex et ça ira mieux, quoi. Et puis au fur et à mesure, on augmente dans les questions. Et maintenant, on en est à confier des décisions létales à des intelligences artificielles. Moi, c'est ce truc qui me fascine. Ça, c'est mon côté Terminator. Et en même temps, qui m'horrifie. Ça, c'est mon côté chrétien prêtre. C'est l'usage militaire de l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire que là, maintenant, c'est en train de devenir sans fin dans les décisions. Et ça veut dire que ce qui est hyper important, de vous dire que la responsabilité morale est inaliénable et que à la fin, c'est l'homme qui utilise l'intelligence artificielle qui non seulement doit rester aux commandes, mais qui devant les tribunaux restera aux commandes, qui sera responsable également de ce qu'il en utilise, mais aussi devant Dieu. Ça veut dire que devant Dieu, c'est vous qui prenez vos décisions sur les choix d'un métier, sur les choix de tel script plutôt que de tel autre, sur les grandes décisions comme sur les petites décisions. Et là, il faut faire très attention à la manière dont on utilise l'intelligence artificielle. Voilà pour l'intelligence artificielle. Ça n'allait pas forcément très loin dans les enjeux, mais je pense que c'est important. Je reviens sur ce que je vous disais, parce que c'est toujours le call to action un bon influenceur, mais cette question d'hygiène intellectuelle, je pense que si jamais vous deviez retenir une chose, c'est celle-là. Vous devez avoir, de la même manière que vous devez avoir une hygiène musculaire avec le sport, enfin vous devez, j'en sais rien, mais enfin c'est bien quoi, de la même manière que vous devez avoir une hygiène corporelle, de la même manière qu'on doit avoir une hygiène spirituelle, avec la prière, ben maintenant vous pouvez rajouter quelque chose. Alors je sais bien que les journées n'ont que 24 heures, je sais bien que les journées, mais maintenant, l'hygiène intellectuelle de prendre 1h30 par semaine d'exercice intellectuel pour remuscler des muscles qui deviennent atrophiés, parce que la mémoire est un muscle, parce que la capacité cognitive est un muscle, ça, c'est aussi important que de faire son running au parc Monceau le dimanche matin ou le samedi matin. Et vous retenez la manière dont on peut redécouvrir Don Quichotte avec l'intelligence artificielle. Regardez par exemple, là, ils vont sortir l'Odyssée là, avec Christopher Nolan. Alors moi, ça fait 3 ans que je l'attends, donc là, j'en peux plus, ça sort dans un mois. Normalement, là, j'ai pas encore réussi à trouver le temps, mais normalement, je devrais être en train de relire l'Odyssée. Mais l'Odyssée, si jamais vous le lisez au ras des pâquerettes, personne ne rentre dans le génie de l'Odyssée, quoi. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique. Et là, ChatGPT vous montre les petites allitérations en grec, etc. C'est passionnant.